VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Conakry, 18h à Bangui, bienvenue à notre journal. Élection présidentielle du 10 avril au Tchad, face à 12 candidats, le président sortant Idriss Déby Itno a remporté le scrutin au premier tour avec 61,56% des voix selon les résultats provisoires de la CENI, la Commission électorale nationale. Mais l'opposition tchadienne, qui dit maintenir son unité face au pouvoir en place, affirme avoir d'autres résultats pour ce scrutin. Le point avec notre correspondant N'Djamena, André Kodmajinga.
Parmi les 12 candidats de l'opposition qui semblent faire alliance pour affronter le président Déby en cas de second tour sont divisés. 5 d'entre eux ont déjà appelé l'heureux gagnant pour le féliciter. Finalement, il n'en reste que 7 qui réitèrent leur volonté à défendre la vérité des urnes. Dans un communiqué de presse sanctionnant la rencontre de l'opposition ce vendredi, lu par le chef de file de l'opposition Saleh Kebzabo, les résultats dont il dispose et qui seront publiés incessamment contredisent les chiffres avancés par la CENI. Et donc, précise-t-il, les 7 candidats qui sont encore restés fidèles réaffirment leur refus de reconnaître le hold-up électoral et l'institution qui en émane. Peu avant la sortie médiatique de l'opposition, le premier ministre chef du gouvernement Paimi Padake Albert est dur.
Si la contestation par voie légale des résultats provisoires d'une élection est un droit, il n'en demeure pas moins que toute tentative d'atteinte à l'ordre public se heurtera à la rigueur froide de la loi.
Mais Saleh Kebzabo appelle donc la population à sauvegarder jalousement sa souveraineté. Car, dit-il, les Tchadiens vont vivre dans les jours à venir les conséquences incommensurables de cette mascarade. André Kodmajinga N'Djamena pour VOA Afrique.
Au Burundi, le parquet a demandé aujourd'hui la perpétuité pour tous les 28 présumés putschistes jugés dans le procès devant la cour d'appel à Gitega, dans le centre du pays. Les 4 généraux condamnés à la prison perpétuelle en première instance, dont l'ancien ministre de la Défense Cyril Ndaï Rukiye, reconnaissent leur participation dans la tentative de coup d'État pour, disent-ils, sauver la nation en danger. Mais ils affirment n'avoir tué personne ni détruit aucun édifice. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Après 9 jours d'audience publique, le procès en appel des présumés putschistes de mai dernier s'est clôturé ce vendredi. Le parquet demande une réclusion à perpétuité pour les 28 présumés putschistes. En outre, le procureur demande leur interdiction de travail dans la fonction publique pendant 20 ans. Le ministère public a essayé de convaincre la cour sur le lien entre le coup d'état du 13 mai dernier et les manifestations anti-troisième mandat. Le présumé numéro 2 du putsch manqué, le général Cyril Ndaï Rukiye, qui a plaidé coupable de tentative de coup d'état sans la présence de son avocat, encore une fois affirmé qu'il cherchait le retour à la légalité constitutionnelle car l'accord de paix et de réconciliation d'Arusha venait d'être violé avec le troisième mandat controversé du président Pierre Nkurunziza. Le général Ndaï Rukiye indique avoir agi pour défendre la population alors que les manifestations pacifiques contre le troisième mandat du président Nkurunziza étaient durement réprimées par certains membres de la police et de l'armée burundaise. Mais il nie toutes les autres accusations de destruction des bâtiments et d'assassinat de 41 policiers et 9 militaires et par conséquent ne pourra pas payer les dommages et intérêts estimés à plus de 10 millions de dollars américains. La cour d'appel de Gitega a déclaré qu'elle va rendre le jugement en ayant 30 jours. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le président de la Centrafrique, Faustin Akanji Touadéra, est à New York pour participer à la cérémonie de signature de l'accord de Paris sur le changement climatique. Lors de son tête-à-tête jeudi avec le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, le leader centrafricain a évoqué les accusations d'abus sexuels contre les casques bleus en RCA. Au micro de Jacques Aristide, on écoute Faustin Akanji Touadéra.
Ces questions d'abus sexuels est une question grave qui touche toute la société, tous les Centrafricains sont touchés par cette situation. Mais ce que nous voulons, c'est que la justice soit rendue. Et qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport aux enquêtes qui sont menées, les autorités centrafricaines ne sont pas souvent associées à cela. Notre souhait, c'est ce que j'ai dit au secrétaire général, que s'il y a des cas qui sont avérés, que au moins nous soyons informés et que nous soyons associés à la recherche de la vérité à ce niveau-là. Nous allons aussi, compte tenu des dispositions actuelles concernant cette situation, faire aussi, dans le cadre bilatéral, discuter avec les pays contributeurs pour accélérer le processus, parce que dans les dispositions actuelles, la justice ne pourrait se faire que par rapport aux pays contributeurs. Donc au jour d'aujourd'hui, les choses traînent un peu à ce niveau-là. Nous allons sensibiliser nos amis, ceux qui ont contribué au niveau des forces pour que la procédure soit accélérée, pour que la justice soit rendue à ces victimes.
Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, interviewé au siège de l'ONU par Jacques Aristide. Entretien disponible sur voafrique.com.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, fin de cavale pour le djihadiste Fawaz Ould Hameida, dit Ibrahim Diss. Il a été arrêté dans la nuit du jeudi 21 avril 2016 à Bako di Colony Golf dans l'agglomération de Bamako, et ce grâce à une opération de la force spéciale de la DGSE malienne. De nationalité mauritanienne, Ibrahim Diss n'en est pas à son premier attentat sur le territoire malien, mais l'attaque qu'il avait préparée pour ce week-end à Bamako a été déjouée par son arrestation. Le point avec notre correspondant dans la capitale malienne, Kassim Traoré.
Arrivé à Bamako le 16 avril 2016, logé dans un appartement qu'il payait à 65 000 francs CFA, le terroriste Fawaz Ould Hameida, dit Ibrahim Diss, est de nationalité mauritanienne. De teint un peu noir, il a été arrêté par la DGC malienne ce 21 avril à Bako di Colony Golf, alors qu'il s'apprêtait à commettre un attentat sur les cibles occidentales ce week-end à Bamako. Ibrahim Diss est le chef des opérations d'Al-Mourabitoun. Il est aussi l'auteur de l'attentat de la Terrasse en mars 2015 et planificateur principal des attentats de Radisson, de Sévaré et de l'Hôtel Nord-Sud. Lors de son arrestation à Bako di Colony, un important lot d'explosifs, des armes de guerre ont été retrouvés à son domicile. Suite à sa première interrogation, il avoue être le tireur de la Terrasse, le commanditaire de Radisson et le premier à infiltrer l'Hôtel Biblos de Sévaré. Il est venu pour réparer l'attaque contre la base de l'EITM qui, selon ses chefs, a été un échec. Par ailleurs, les trois humanitaires du CICR kidnappés depuis le 16 avril à Abeibara par Ansar Dine ont été libérés. En contrepartie, l'opération militaire française Barkhane a libéré les quatre personnes suspectées terroristes à Kidal, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Mauritanie, la cour d'appel de Ouagadougou a renvoyé l'affaire Mohamed Nkeytir devant la Cour suprême. Ce blogueur de 33 ans, accusé d'apostasie, a été condamné à mort en décembre 2014. Dans un blog, Mohamed Nkeytir avait critiqué ceux qui utilisent l'islam pour justifier le phénomène des castes. Au micro d'Idriss Fall, les explications de Maître Fatima Tambay, avocate de la défense du blogueur mauritanien.
Le tribunal a disqualifié le crime d'hérésie au crime d'apostasie. En même temps, il a décidé de faire renvoyer le dossier devant la Cour suprême pour que cette dernière s'assure de la sincérité de la repentance de notre client, de Mohamed. Et nous, à notre grand truc, c'est qu'il y a une confusion dans le libellé du prononcé du jugement. La Cour a prononcé en même temps sa condamnation à mort, ce qui est impossible dans le cas où il y a disqualification et renvoi du dossier devant la Cour suprême. Une fois cet acte fait, au maximum, la Cour d'appel aurait pu condamner Mohamed à 2 ans d'emprisonnement maximum. Et donc, il y a une confusion, le fait que la Cour ramène la condamnation à la peine capitale à partir du moment où ils ont renvoyé le dossier devant la Cour pour confirmer sa repentance. En tant qu'avocat, on suivra la procédure.
Maître Fatima Tambay, avocate de la défense de Mohamed Nkeytir, le jeune bloqueur mauritanien condamné à mort pour apostasie. Et puis, 4 mois après l'euphorie de la COP21, la Conférence internationale sur le climat, 170 pays sont aujourd'hui au siège de l'ONU à New York pour signer l'accord de Paris sur le changement climatique. Jacques Aristide.
Une grande messe onusienne à laquelle doivent prendre part plus d'une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement, de même que des dizaines de hauts responsables. Cette cérémonie de signature fait suite au succès de la conférence de Paris sur le climat en décembre dernier. Jamais un accord international n'aura été signé par autant de pays en un seul jour, a déclaré la ministre française de l'Environnement, Ségolène Royal, qui préside la COP21. Mais la partie est loin d'être gagnée, car pour entrer en vigueur, l'accord de Paris doit être ratifié par au moins 55 pays représentant ensemble au moins 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Et pour terminer, la justice française qui enquête sur les conditions d'acquisition des riches patrimoines en France de plusieurs chefs d'État africains a saisi plusieurs biens immobiliers appartenant à la famille du président gabonais Ali Bongo Ondimba à Paris et sur la Côte d'Azur. Les juges d'instruction ont pris le contrôle d'une société civile immobilière immobilière, détentrice d'une villa à Nice et d'un hôtel particulier dans le quartier UP du 16e arrondissement.